Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Octobre 2013, en pleine mer, entre Tripoli et Lampedusa. Un bateau ivre, rempli de 500 hommes, femmes et enfants, quitte les côtes libyennes avec comme pour seul bagage un peu d'eau, quelques biscuits et un GPS pour une traversée dont ils ne connaissent pas la durée. Parmi eux, il y a une jeune fille de 23 ans. Elle s'appelle Letter Bran. Son odyssée a commencé il y a un peu plus d'un an. Partie d'Érythrée avec sa meilleure amie, Sénaïte, pour échapper au service militaire obligatoire, elle a quitté ce pays de la Corne d'Afrique sans pouvoir dire au revoir à ses parents. À deux, elles ont pris la route vers l'Europe, comme un cinquième de la population de ce petit pays. Pour l'atteindre, elles ont traversé l'Éthiopie, le Soudan, ont passé des jours à travers le Sahara sur des pick-up blindés. Elles ont connu la chaleur, le manque d'eau et parfois les abus de leurs passeurs, exploiteurs de la misère humaine. Après des mois de voyage, elles sont arrivées à Tripoli sans y voir la mer. Enfermées dans des maisons isolées, accompagnées par d'autres candidats à l'exil, elles ont attendu le grand jour. Alors, pour passer le temps, elles parlent avec les autres migrants de leur parcours et de cette vie rêvée qui les attend de l'autre côté. En attendant de prendre la mer, elles se répètent les noms des villes qu'elles doivent atteindre l'une après l'autre. Lampedusa, Ventimille, Paris, Sangatte. Au dernier jour du mois de septembre 2013, en pleine nuit, on vient enfin les chercher. Chargées dans des camions réfrigérés comme on charge des marchandises, elles font le tour de la ville, se serrant un peu plus pour laisser une place aux autres migrants que les passeurs collectent. Chacun doit payer entre 1000 et 3000 dollars pour risquer sa vie et espérer atteindre l'Europe, par la mer. Dans une nuit obscure, Letter Bran et Sénaïte s'assoient l'une contre l'autre à bord d'un vieux chalutier. En quittant cette rive, ces deux filles d'Afrique prient leur dieu et la mer de les laisser passer. De l'autre côté, à 160 000 nautiques, l'île de Lampedusa agit comme un aimant. Façonné par les vagues, ce caillou de 20 km de superficie est la première terre européenne. Située entre la Tunisie et la Sicile, l'île porte le nom de la seule ville qui est sur cette île, précisément, où 6000 personnes vivent de la pêche et du tourisme. 6000 Européens en première ligne, à la frontière entre deux mondes, témoins de l'arrivée des vivants et des morts de l'autre rive. Le 3 octobre 2013, au petit matin, les damnés de la Terre sont des centaines à s'échouer. Parti la veille avec des amis en bateau pour profiter de la baie de Tabacarra et de son eau turquoise, Charani et Linda, deux Européennes d'Italie, sont réveillées en pleine nuit par des bruits lointains, un peu comme celui d'oiseaux en perdition. Alors elles lèvent l'ancre et prennent la mer. Après quelques minutes, elles voient des points noirs sur l'eau. C'était comme une mer de têtes, se souvient Linda. Un par un, à l'aide de leurs amis, elles récupèrent les naufragés. Ils sont souvent nus, le corps enduit de gasoil. En deux heures, elles en sortent 47, dont une seule femme. Fuorino était également en mer. Lui aussi était réveillé cette nuit-là. Il raconte.
Je dormais dans une zone s'appelant la Tabacarra. J'attendais l'aube pour commencer à pêcher. Quand, avec des amis, on a cru entendre des hurlements et des voix. À un moment donné, on est entré dans l'eau. Et là, ce qu'on a vu était affreux. De nombreuses personnes, les bras levés, qui hurlaient. En attendant l'arrivée des secours, on a fait monter à bord de notre bateau des gens qui étaient alors épuisés d'avoir nagé. Ça faisait déjà 3 heures qu'ils étaient dans l'eau.
À bord du chalutier, tout est allé très vite. Après 47 heures de traversée, les Letter Bran et Sénaïte aperçoivent les premières lumières au loin, comme des lucioles. L'Europe est là, à quelques kilomètres seulement. Sans essence pour poursuivre, certains migrants allument les lumières de leur téléphone portable et espèrent ainsi être vus. Les heures passent, mais aucun signe de secours. Alors un homme met le feu à une couverture. Pris de panique, un mouvement de foule fait basculer le bateau. En quelques minutes, l'embarcation rejoint le fond, emportant avec elle ceux qui n'ont pu s'échapper, dont Sénaïte. Letter Bran, elle, a tenu la coque du bateau jusqu'au bout, puis elle a nagé des heures durant, avant qu'un bateau ne la récupère, enfin. Elle est l'une des survivantes de ce naufrage du 3 octobre 2013, aux abords de Lampedusa. Quelques heures plus tard, après les vivants, ce sont les premiers morts que l'on décharge sur le quai, puis qu'on place sur des sacs en plastique. Ils seront 366 à être repêchés ou récupérés sur les plages du Sud. Mais combien sont-ils à avoir été engloutis par la mer, sans laisser de traces depuis ce jour d'octobre 2013, victimes de leurs rêves, pourtant si légitimes? Fuir une dictature, une armée, une famine. Comment Lampedusa est-elle devenue un cimetière pour les migrants et une citadelle pour les Européens?
Je m'appelle Adiam, je viens d'Érythrée, en Afrique. Je suis arrivée en Italie en 2003 par la mer, en barque.
Et pourquoi avez-vous quitté l'Érythrée?
Parce que notre gouvernement était une dictature et il y avait la guerre aussi, alors j'ai fui la guerre. J'ai mis beaucoup de temps pour arriver en Italie. J'ai dû traverser le Soudan, le désert, la Libye, puis la mer. Quand on est arrivé au large de la Tunisie, il y a eu une tempête. La barque a chaviré. On a crié « à l'aide, à l'aide ». On a brûlé nos t-shirts. C'était la nuit. Un bateau tunisien est arrivé et nous a sauvés. Il nous a donné une grande barque. Par chance, je ne suis pas morte, mais beaucoup d'autres, oui. Mort.
C'est 10 ans avant le naufrage du 3 octobre qu'Adiam est arrivé à Lampedusa. Cette année-là, 8819 migrants ont été arrêtés aux frontières maritimes de l'île. Ces arrivées représentent déjà plus de 60% du total des migrants arrêtés sur le territoire italien. Au début de ce nouveau millénaire, les problèmes liés à l'immigration clandestine constituent en Europe une question prégnante. En Italie, en 2002, les parlementaires votent une nouvelle loi sur l'immigration dite Bossi-Fini, du nom de ses auteurs, Umberto Bossi, un ancien chef de la Ligue du Nord, et Gianfranco Fini, fondateur du parti post-fasciste Alliance Nationale. Cette loi, votée le 4 juin, durcit les conditions d'entrée des immigrés en Italie, limite le séjour dans les centres, exige la prise des empreintes digitales de tous les étrangers non originaires de l'Union européenne, accélère également les procédures d'expulsion et instaure le délit d'immigration clandestine qui interdit aux bateaux de pêche de porter secours aux migrants en détresse. À la suite de ce vote, le centre d'accueil situé à Lampedusa devient un centre de détention, où la durée maximale de séjour peut aller désormais jusqu'à 60 jours. Et chaque mois, on apprend le naufrage d'un bateau, la découverte d'un ou deux dizaines de corps sur une plage du Sud. Le 19 octobre 2003, ce sont 14 personnes qui perdent la vie à quelques kilomètres des côtes italiennes. Année après année, Lampedusa devient une sorte de laboratoire de la politique sur l'immigration dans l'Italie de Berlusconi. En octobre 2004, le gouvernement signe avec les autorités libyennes un accord de surveillance des frontières, avec fourniture de moyens matériels, mise en place de patrouilles mixtes et dispositifs d'expulsion facilités. En 2005, la politique migratoire européenne évolue également vers plus de contrôle. L'Union se munit d'une agence dénommée Frontex, qui coordonne et gère l'action des pays membres sur ses frontières extérieures. Frontex surveille, compte, fiche, décrypte les routes migratoires et devient un soutien logistique aux pays de l'Union. Désormais, à Lampedusa, les bateaux de guerre côtoient les bateaux de pêche. Au petit matin, les migrants sont des dizaines à débarquer sur le quai, une couverture de survie sur le dos avant d'être emmenés en bus vers le camp situé en dehors de la ville. Derrière ces murs, aucun journaliste n'a le droit de pénétrer. Que se passe-t-il à l'ombre des caméras ? Pour en savoir plus, en septembre 2006, Fabrizio Gatti, journaliste de l'hebdomadaire L'Espresso, se jette à l'eau à quelques centaines de mètres d'une plage de Lampedusa et se fait passer pour un migrant. Après avoir été secouru par des riverains, il est amené auprès des carabiniers qui l'envoient dans le camp. Après 6 jours enfermé dans ce centre, il est envoyé en Sicile, puis relâché avec comme seule consigne « Vous avez 6 jours pour quitter l'Italie ». Alors que ses compagnons de fortune prennent la route vers le nord, lui rentre à Rome et écrit un article intitulé « Dans l'enfer de Lampedusa », où il décrit les conditions inhumaines, les humiliations et les brimades des gardiens. Il raconte notamment comment certains gardiens contraignent des musulmans mineurs à regarder des images pornographiques, à se dénuder en public. Il pointe également les mauvaises conditions sanitaires, le surpeuplement. Durant son séjour, il n'a reçu aucune aide juridique. Cette année-là, en 2006, le journaliste de France Inter, Eric Valmire, est sur place. Il rencontre Frédérica, une bénévole de Médecins Sans Frontières, qui a accès au centre.
Moi, personnellement, j'aimerais pouvoir avoir du temps pour visiter les gens. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps pour le faire. Et les choses qui m'ont frappée, c'est les yeux des immigrés. C'est plein de peur. Parce qu'ils sont vraiment ils sont effrayés. Et c'était quand même très frappant de voir des personnes baiser le sol. On dit comme ça? Et j'avais vu ça seulement une autre fois dans ma vie en Israël, il y a 15 ans. Et ça te frappe beaucoup, je trouve.
Malgré le tollé politique, la situation n'évolue pas. Pire, en 2008, le gouvernement de Berlusconi décide de ralentir les transferts et de plonger un peu plus le centre dans une situation d'urgence. En décembre, le gouvernement italien annonce que quiconque arrivera sur l'île de façon illégale sera détenu pour une durée indéterminée et que les demandes d'asile se dérouleront désormais sur place. Alors que le centre est pensé pour accueillir 351 personnes, au début du mois de janvier 2009, on en compte plus de 2000 détenus derrière des barbelés. Dans la rue désormais, les habitants manifestent contre la militarisation de leur île, qu'ils comparent à un Guantanamo des clandestins. Pour certains lampédoussiens, la petite île balnéaire est devenue une prison, comme le raconte cette habitante.
C'est tout un petit village. L'impression bizarre, c'est qu'on croit d'être contrôlé par la police. On ne peut pas aller faire les courses quand on voit la police. Donc, tu as l'impression que la police est là pour te contrôler. Ce n'est pas pour l'immigration, mais c'est pour toi. Parce que c'est trop. En fait, vraiment, on ne peut pas sortir de la maison qu'on voit des polices, des militaires, toujours, toujours. Même l'autre jour, on allait au restaurant et il n'y avait que deux clients, en fait, nous et la police.
Année après année, à Lampedusa, le passage des migrants laisse des traces. Quelques mots, des vêtements abandonnés sur les plages du sud de l'île et des croix en bois dans le cimetière de la ville qui accueille les corps que la mer a bien voulu faire réapparaître. Il y a les croix blanches avec comme seule indication un numéro, puis celles dont on a retrouvé l'identité. Pour elles, les Lampedusiens offrent des sépultures avec les noms gravés sur du marbre. Dans ce carré des naufragés, les dates, les noms, les catastrophes défilent, plaque après plaque. Sur l'une d'elles, on peut lire « 16 avril 2009, le navire marchandique Pinard, en route vers la Tunisie, se porte au secours d'une embarcation en difficulté. À bord du cargo, on a transféré le corps sans vie d'Esterada, 18 ans, nigériane. » Au cœur de l'île, sur un terrain vague, un autre cimetière voit le jour, celui des épaves de bateaux. Entassés les uns à côté des autres, ils sont les derniers vestiges de ces traversées. Certains sont des vieux chalutiers, d'autres des bateaux de pêche, presque neufs. Tous ont des indications arabes sur la coque. En 2011, sur l'autre rive, la révolte gronde. En 4 semaines, les Tunisiens poussent au départ le président Ben Ali en poste depuis 1987. Puis c'est l'Égypte qui s'embrase. Le 11 février 2011, le président Moubarak annonce qu'il s'en va. En Libye, malgré les mobilisations, le dictateur Kadhafi refuse de quitter le pays. Il faudra attendre l'épreuve des armes et le début d'une guerre civile pour que le pouvoir cède. Dans ces pays, les passeurs poursuivent leur trafic, envoyant chaque jour un peu plus des migrants à bord de leurs bateaux miteux. Parmi eux, Haitham, jeune Tunisien de 19 ans. En 2011, au lendemain de la révolution, Alexandre Degnaud de France 2 suit son odyssée pour envoyé spécial de Zarzis jusqu'en Italie. Elle est avec lui à bord du bateau qui l'emporte.
Tu vois, après la collision, je suis tombé dans l'eau. J'ai essayé de m'agripper au bateau des gardes nationaux. Mais le capitaine a surgi de nulle part pour me frapper. Et il m'a dit, tu vas rester là, dans la mer. Tu montes pas. Mais moi, je me suis accroché et j'ai réussi à monter quand même.
Ça ne marche pas cette fois-ci. Tu vas recommencer encore ?
Normalement.
C'est sûr ?
Inch'Allah. Mais si Dieu veut, là ça va marcher.
Inch'Allah. Après avoir passé quelques jours à Lampedusa, au centre de détention, Haitham arrive en Sicile, passe par l'Italie, puis rejoint la France. Il est l'un des 51 753 migrants recensés qui ont débarqué sur l'île italienne en 2011. Cette année-là, ce nombre représente 82% des migrants recensés dans le pays. Avec des arrivées qui constituent près de 10 fois la population de l'île, Lampedusa devient l'étape numéro 1 des routes migratoires de ces réfugiés qui cherchent à tout prix à rejoindre l'Europe. Lampedusa devient aussi une étape pour les populistes de tout genre qui font de cette île le symbole d'une Europe passoire. Le 14 mars 2011, par exemple, Marine Le Pen, alors en campagne pour la présidentielle, se rend à l'improviste sur les lieux. Accompagnée par Mario Borghezio, député européen du Parti de la Ligue du Nord, elle reste à peine 2 heures sur l'île, le temps de faire le tour des médias français, italiens, allemands.
L'Europe n'a pas la capacité d'accueillir l'ensemble de ces clandestins, que les peuples d'Europe sont en situation telle d'appauvrissement que nous ne pouvons pas assumer, en plus d'une immigration légale qui est déjà très importante, je parle évidemment de la France, une immigration clandestine.
Quelques jours plus tard, c'est Silvio Berlusconi, président du Conseil italien, qui fait le déplacement et qui promet le départ des réfugiés vers d'autres structures dissimulées sur la péninsule. Il vient annoncer également le financement d'un plan de communication pour relancer le tourisme dans l'île. Dans les journaux, Lampedusa reste le nom d'une mauvaise conscience européenne, d'une histoire sans fin, celle des naufragés en Méditerranée où l'on apprend la mort de 10, 20, 30 réfugiés, un jour d'été ou d'automne, à quelques kilomètres de nos côtes. Mais comme une vague chasse l'autre, chaque drame fait oublier le précédent. Les naufrages deviennent alors des informations dont on ne donne que la date et le nombre de survivants, comme si on avait accepté que notre Méditerranée soit devenue fosse commune. Alors que les institutions de l'Union européenne hésitent, attendent, accentuent les contrôles et les expulsions, c'est un homme d'église, le pape François, qui rappelle l'existence de l'île et de tous ses morts en Méditerranée. En juillet 2013, pour son premier voyage, le pape débarque à Lampedusa. Dans son homilie, il demande pardon pour cette globalisation de l'indifférence.
Nous nous sommes habitués. Nous sommes habitués aux souffrances de l'autre. Cela ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas notre affaire. Revient la figure de l'innominé de Manzoni. La globalisation de l'indifférence nous rend tous innommés, responsables, sans nom et sans visage.
Quelques semaines plus tard, le 3 octobre 2013, 366 migrants périssent en mer, toujours dans l'indifférence, ou presque. Now that it's been brought, it shows in your reflection, you've fallen out of touch. Got lost along the way, and no, it's not enough. But these things, they all get better, and even if it's tough. We'll be right back.
Faute de place dans l'église, ils sont des centaines sur le parvis balayé par le vent du nord, venus se recueillir à la mémoire des victimes du naufrage, comme Giovanna.
J'ai mal au cœur, moi.
Et c'est pas la première fois, il y a toujours des immigrants ici, alors des enfants, tout ça, ils sont morts, alors c'est tout, ça va.
Lampedusa est restée ville morte toute la journée, drapeau en berne, écoles et commerces fermés. Max est sénégalais, ça fait 20 ans qu'il habite ici et c'est la première fois qu'il vit un tel drame.
Ceux qui sont venus ici, ce sont nos frères, nos parents, ce sont tous de l'Afrique et nous sommes des Africains. C'est pourquoi nous sommes venus avec les Italiens pour commémorer la situation.
La messe sera suivie d'une procession. Le cortège passera sur le port de pêche où l'on voit quelques drapeaux noirs avec ce mot écrit en blanc, Vergogna, la honte. À Lampedusa, Philippe Leduc, Sandy Dauphin, France Inter.
Ce 4 octobre 2013, à Lampedusa, au lendemain du naufrage d'une embarcation de migrants qui a provoqué la mort de 366 personnes, les Lampedusiens déplorent ces nouvelles victimes qu'ils retrouvent désormais sur les écrans de télé et dont on cache le visage et le nom. D'où viennent-elles? Quand ont-elles pris la route vers l'Europe? D'Érythrée, de Syrie, d'Éthiopie, quelle guerre se cache derrière ces vies? Pourquoi ces hommes, ces femmes, ces enfants ont-ils décidé de tenter cette traversée? Dès l'annonce du drame, l'émotion passe les frontières. Le 4 octobre 2013, le gouvernement italien décrète un jour de deuil national. Le pape François, en déplacement à Assise, accuse de nouveau le monde d'indifférence envers ses réfugiés. Des politiques du pays et de l'Union européenne, dont José Manuel Barroso, viennent saluer la mémoire des morts. Au même moment, à l'intérieur de sa petite mairie, Giusy Nicolini tient le décompte macabre des victimes que la maire lui livre chaque jour. Au lendemain de son élection, en 2012, elle avait déjà alerté les autorités de Rome avec une lettre courte et sans appel. « Je suis la nouvelle maire de Lampedusa », écrit-elle. « On m'a affecté 21 cadavres de personnes qui tentaient d'atteindre l'île. Notre cimetière n'a plus de place. Nous allons l'agrandir. Mais dites-moi, quelle superficie doit-il atteindre ?» Un an plus tard, au lendemain du drame, malgré les annonces, Lampedusa retombera selon elle dans sa solitude, seule au milieu de la mer, à secourir ceux que l'Europe refuse d'accueillir.
Lampedusa sera de nouveau laissée toute seule demain. La grande solitude de Lampedusa, c'est que même après le passage du pape François, on se rend compte que rien ne change dans les lois, les politiques d'accueil, même dans les secours portés à ces réfugiés qui ne sont pas des clandestins, des immigrés légaux. Et ce n'est pas aux forces de police d'aller les récupérer dans l'eau, vivants ou morts. Il devrait y avoir des couloirs humanitaires.
Le naufrage du 3 octobre 2013 est à l'époque le drame le plus important de ce siècle qui commence. Alors, le gouvernement italien lance une première opération de surveillance et de secours qui porte le nom de Mare Nostrum. Sur les mers, désormais, des bâtiments militaires italiens partent au secours des migrants jusqu'aux côtes libyennes. Alors que chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à être ramenés sur terre sains et saufs, c'est à l'intérieur du centre d'accueil que les critiques se portent de nouveau. Le 16 décembre 2013, le journal de la RAI 2 diffuse un reportage réalisé à l'aide d'images du téléphone portable de Khaled, un réfugié syrien qui a filmé l'intérieur du camp. On y voit les migrants, hommes, enfants, attendre nus dans le froid avant d'être aspergés de produits désinfectants. Les membres du centre les traitent sans considération, jetant leurs affaires à terre. L'effroi est grand sur l'île, comme en Europe. Cécile Malmström, commissaire européenne aux affaires intérieures, déclare sur Twitter l'ouverture d'une enquête sur ces traitements qu'elle juge épouvantables. Et le gouvernement italien suspend les dirigeants du centre et il annonce l'évacuation du camp pour une remise à niveau ainsi qu'une révision des lois dites Fini-Bossi. Sur le plan des sauvetages, après un an d'existence et 150 000 personnes sauvées, l'opération Mare Nostrum est arrêtée. À partir du 1er novembre 2014, l'Europe prend la relève avec l'opération Triton. Malgré une coordination européenne sous la houlette de Frontex, le budget de l'opération passe de 9 millions par mois à 3 millions. À l'inverse de l'initiative italienne, Triton n'est pas une opération de sauvetage, non, mais de surveillance sur l'ensemble des eaux territoriales européennes. Quelques mois plus tard, le 19 avril 2015, un nouveau drame fait la une des médias du monde.
France Inter.
Nouvelle tragédie en Méditerranée selon un scénario qui se répète. Un chalutier de 20 mètres de long avec à son bord plus de 700 migrants, alors qu'il ne pouvait accueillir qu'une centaine de passagers, a fait naufrage à 110 km des côtes libyennes. Dans la nuit, les migrants lancent un appel de détresse suite à des difficultés de navigation. Les gardes-côtes italiens déroutent sur la zone un navire marchand portugais. En le voyant arriver, les migrants se portent tous du même côté de l'embarcation, la faisant chavirer. 28 personnes ont été secourues pour l'instant et d'autres navires ont été dépêchés sur place pour trouver des survivants. Si le nombre de 700 victimes était avéré, cela porterait le bilan des morts en Méditerranée à 1600 depuis le début de l'année, alors qu'il était de 47 victimes à la même époque en 2014. Hausse également du nombre de migrants à accueillir pour l'Italie depuis le début du mois d'avril. 15 000 nouvelles personnes, dont de nombreux enfants, sont arrivées dans la péninsule. Le HCR demande désormais la mise en place d'un Mare Nostrum européen.
4 jours plus tard, le Conseil européen annonce que l'Union européenne mettra tout en œuvre pour éviter de nouvelles pertes de vies humaines en mer. Pour cela, elle lance une opération militaire pour lutter contre les passeurs et les trafiquants humains. Encore une fois, son objectif n'est pas le sauvetage, mais la surveillance et la lutte contre le trafic. Après chaque drame, certes, Bruxelles s'émeut, puis hésite, tâtonne, modifie les lois, espère toujours faire de la Méditerranée un mur étanche. Alors, dès la fin de l'année 2014, ce sont les ONG qui prennent le relais des sauvetages en mer, comme autant des boat people vietnamiens. Le drame est désormais à quelques centaines de kilomètres de nos plages. Des médecins et des bénévoles partent en mer secourir ces migrants. À Lampedusa, les habitants poursuivent leur vie d'accueil et de deuil. Parmi eux, ce médecin filmé dans le bouleversant documentaire intitulé « Fu Okohamare » par-delà Lampedusa de Gianfranco Rossi, ours d'or au dernier festival de Berlin et qui sortira en septembre 2016. Devant un écran d'ordinateur, il montre les photos d'un bateau de réfugiés puis d'un adolescent allongé, rachitique. Il raconte les traces de la traversée sur les corps meurtris, les brûlures dues au mélange d'eau et d'essence, la déshydratation et l'étouffement. Avec retenue, il parle des vivants et se souvient des morts de Lampedusa.
Tout homme a le devoir, s'il est un être humain, de secourir ces personnes. Quand nous y parvenons, nous en sommes vraiment heureux. Heureux d'avoir pu les aider. C'est parfois impossible, hélas. Et je dois parfois assister à des choses épouvantables, des morts, des enfants. Quand cela arrive, je suis obligé de le faire. Ce que je déteste le plus, l'inspection de cadavres. J'en ai fait beaucoup, sans doute trop. Beaucoup d'amis ou de collègues me disent « Tu en as tellement vu ». Tu es habitué. C'est faux. Comment peut-on s'habituer à voir des enfants morts, des femmes enceintes, des femmes qui ont accouché sur des canots en perdition, l'enfant encore attaché par le cordon ombilical? Tout ça te laisse une colère, un vide dans l'estomac, un trou. Tu penses... Tu rêves d'eux, je fais des cauchemars où je revis souvent. Souvent.
Aujourd'hui encore, de l'autre côté de la rive, des migrants prennent la route de l'Europe, quittent leur pays, traversent des déserts, attendent dans des maisons des jours entiers, puis tentent leur chance par la mer. Combien survivront à la prochaine traversée? Combien de bateaux coulent sans même qu'on ne le sache?
How many people?
250.
Your position.
There is in danger. Please, we beg you, please, as ever.
Your position.
In the name of God.
Your position. Hello?
En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier.
Tant d'espoir.